Voilà, je vais prendre quelques temps d'enseignement justement sur le sujet. On nous a proposé ce sujet, en tout cas en introduction, du credo de Nicée, des symboles des apôtres. Avant cela, notre Église, là, chaque année, on a un fil rouge, un verset fil rouge. Donc l'an dernier, le verset fil rouge, c'était celui-là, « Sois bénédiction », tiré de Genèse. Voilà, on en a fait un poster, et puis on a des petites cartes, et durant toute l'année, on a essayé de faire en sorte que nos exhortations, nos enseignements soient dirigés sur le fait que, individuellement et communautairement, le Seigneur nous appelle à être des bénédictions. Alors, même si c'était en 2024, c'est aussi en 2025, quoi. Voilà, soit bénédiction. Et cette année, généralement, c'est le premier dimanche de l'année où nous révélons le verset. Cette année, c'est « Seigneur, apprends-nous à » ou « réapprends-nous à ». Et donc, on peut, on va y mettre durant toute cette année certainement plein de choses. « Apprends-nous, réapprends-nous à vivre ensemble ». À te célébrer ensemble, réapprends-nous, puisque la question là de Luc, c'est la question, enfin c'est plutôt la demande d'un des disciples de Jésus qui dit « apprends-nous à prier ». Enfin bon, je me dis c'est complètement dingue parce que ça faisait un bout de temps qu'ils étaient ensemble et Jésus leur avait pas appris à prier. Bon, ça, c'est pour l'anecdote. Mais apprends-nous, Seigneur. Et quand je lis « réapprends-nous », je pense souvent à Ésaïe qui dit « chaque matin, Seigneur, réapprends-moi à écouter ta voix. Réapprends-moi. Chaque matin. » C'est qu'on ne peut pas juste dire, bon, voilà, j'ai pu écouter le Seigneur aujourd'hui, basta. Non, non, c'est chaque matin, j'ai besoin de réapprendre à être à l'écoute de mon Dieu. Mon propos ce matin ne sera pas théologique, ce sera des pistes. Pour qu'on puisse les prendre avec nous et les méditer cette semaine. Ce sont des pistes non théologiques, mais tellement évidentes pour tout disciple de Jésus. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Notre fédération a ce credo dans ses bases. Alors dans notre fédération, c'est « je crois », c'est effectivement dit au singulier, mais nous sommes là et nous pouvons aussi le décliner à la première personne du pluriel. Nous croyons, je crois, c'est une affirmation, une conviction, c'est une proclamation devant Dieu, mais devant aussi les hommes, devant le monde angélique, devant les mondes des puissances des ténèbres. D'ailleurs, Jacques ne s'y trompe pas, il nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Et ils tremblent ce matin du fait de notre proclamation de foi, du fait que nous soyons là pour dire « Je crois ». En tant que disciple de Jésus, Nous ne sommes pas seulement des croyants, mais nous sommes des attestants. On atteste que Dieu est tout-puissant, qu'il est Père. On atteste le credo. Et nous l'attestons parce que nous l'avons vu se manifester dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc, ce n'est pas compliqué d'attester la puissance, l'amour, l'action de Dieu dans nos vies parce que nous l'avons vu dans notre propre vie. Nous sommes donc des témoins et nous pouvons dire à ceux qui nous entourent, je crois parce que Dieu s'est manifesté dans ma vie. J'aime beaucoup et plus ou moins régulièrement, je ressors ce que disait un de nos membres, un membre d'église. Il nous avait dit d'ici, il disait, mais moi je ne crois pas en Dieu. Alors, c'était un peu choquant quoi, comment ça? Il nous a fait un peu poireauter. Non, non, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas que Dieu existe, disait-il. Je le sais. C'est différent. Je ne crois pas que Dieu existe. Je le sais. Puissions-nous, les uns et les autres, vivre cette affirmation, je sais que le Seigneur existe parce qu'il s'est manifesté dans mon cœur et dans ma vie. La croyance est une chose, vivre avec le Seigneur une vie intime en est une autre. Nous croyons en un seul Dieu. Nous pourrions reprendre à notre compte ce que les, je ne sais plus le terme d'ailleurs qu'ils emploient, ça m'échappe tout d'un coup, mais nos frères juifs ont un verset qui centralise toute leur foi. Ça se trouve dans le Deutéronome au chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, et on pourrait changer en disant « Écoute, Église du Seigneur, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Et nous pourrions aussi faire notre, ou en tout cas entendre Ésaïe, ou l'Éternel nous dire au travers d'Ésaïe « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » À part moi, il n'y a point de Dieu. C'est ce que disait l'apôtre Paul lorsqu'il était à Athènes. Il circulait dans la ville, il a vu le nombre d'idoles. Et au moment où il a l'opportunité de partager devant la foule, il leur dit... Pendant, les actes nous disent, pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. En effet, parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez, ainsi, sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Quelle audace et quelle conviction. Puissions-nous vivre cette même audace, cette même conviction, cette même force de conviction. Nous sommes dans une société où, selon ce que Dieu dit à Jonas, les habitants ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche. Et la société dans laquelle nous sommes ne sait plus distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et laissant tomber les religions, on va dire, traditionnelles, si je peux m'exprimer ainsi, les personnes se sont tournées vers des religions orientales, ésotériques, vers des choses où... Je repense là tout d'un coup, j'ai reçu dans mon bureau il y a quelques années une dame qui était gendarme et qui avait des difficultés pour, c'est le moins qu'on puisse dire, elle n'arrivait pas à enfanter, elle n'arrivait pas à être enceinte. Et donc j'ai prié plusieurs fois pour elle, j'ai reçu des paroles de connaissance de la part de Dieu pour dire où est-ce que ça coinçait dans sa vie. Et dans sa plus grande joie, elle a eu deux enfants. Mais un jour, elle m'envoie un petit mot en disant « Je remercie les énergies ». Je dis « Mais non, comment ça les énergies ?» C'est Jésus qui s'est manifesté dans ta vie pour décoincer là où ça coinçait et te permettre d'enfanter. La confusion, pourtant je vous l'avais bien expliqué, hein, mais voilà, à un moment donné, les énergies, on est bien. Quand j'entends tous les à la télé, il est parti de là-haut, il nous voit, il est à côté de toi et tout. Mais je me dis, mais t'en sais rien, quoi. On voudrait aujourd'hui, un peu comme le dit Paul Naref, tout le monde ira au paradis, mais c'est de la bêtise, quoi. C'est essayer de se persuader que ce qu'on espère soit la réalité. Et donc, ça pose... des problèmes de tout simplement de discernement de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Jésus dit « Je suis la vérité ». Donc la vérité, c'est lui. Et c'est vers lui qu'il faut se tourner. Nous recevons souvent des personnes effectivement complètement déboussolées. Alors nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, le Père. Je suis parfois tellement étonné de l'attitude qu'ont des personnes vis-à-vis du Père Céleste. Lorsque j'étais aumônier à la prison, j'ai été pendant 24 ans, je suis... aumônier depuis 35 ans au CHU, au Sésame, etc. Et donc, pour revenir aux détenus, souvent je reprenais un vieux commentaire d'une autre paire qui dit « Mais comment peux-tu dire notre Père qui est aux cieux si tu ne le reconnais pas comme ton Père ?» Et si tu ne te reconnais pas comme son fils ou sa fille ? Des fois, lorsque il y a, on récite le Notre Père, c'est très rare dans notre Église. Mais parfois, quand je l'entends, je me dis souvent, mais est-ce que la personne... je m'excuse du terme, qui récite le Notre Père, considère que l'Éternel est vraiment le Père et se considère comme un fils et une fille. C'est tellement important. Dans le temps, il y avait, je crois qu'il a épuisé, une Pakistanaise d'origine musulmane, qui a écrit un livre qu'elle a titré « Dieu, j'ai osé l'appeler père. J'ai trouvé, dit-elle, ou témoignait-elle dans ce livre, la proximité de cœur de mon Père céleste et du fait que je sois sa fille. Nous pensons parfois dans notre monde occidental connaître Dieu. Mais lorsque j'entends des personnes dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» pour qu'il m'inflige telle ou telle chose, telle ou telle épreuve, c'est ne pas connaître qui est le Père. Parce que notre Père céleste est un Père aimant, soucieux de chacun individuellement. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience-là, mais en ce qui me concerne, Dieu, le Père, m'a consolé comme une vraie mère. Avec tendresse, avec délicatesse. Ouais, il est chouette. Franchement, il est chouette. Cela dit, il ne répond pas à toutes nos exigences. Quand j'étais jeune chrétien, je me mettais en colère après lui, en disant, mais si tu ne réponds pas à mes prières, tu ne me sers à rien, Seigneur. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas des prières. C'était, Seigneur, si tu ne réponds pas à mes exigences, ça ne marche pas. Et pourtant, le Seigneur est tellement bon. Il ne nous répond pas parfois parce qu'il sait bien que notre demande ne va pas dans le sens de notre bien-être. J'aurais pu être marié avec d'autres filles que mon épouse. Ça fait 48 ans qu'on est ensemble. J'atteste que j'aurais pas pu avoir une meilleure femme que Daniel. Enfin, amen, j'en sais rien, mais enfin, moi... Ah. J'ai rencontré, j'étais fou amoureux d'une fille avec qui je devais partir, on pensait partir en Afrique ensemble, comme missionnaire. Je l'avais rencontré dans une école biblique et... Bon, bref, je fais court, mais je l'ai revue 35 ans après. Je lui ai demandé, tu t'es marié, non ? Enfin bref, on a échangé un peu. Et puis à chaque fois que je lui disais, moi je suis devenu pasteur, ah oh ben, j'aurais jamais pu. Je dis, ben avec mon épouse, on a accueilli des toxicomanes, des personnes alcooliques, sortant de prison. Ah non, jamais j'aurais pu. Et à chaque fois que je disais quelque chose, jamais j'aurais pu. J'avais pas besoin de ça, mais pour être convaincu que c'était avec Daniel que je devais être, mais c'était, je vous dis ça, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, quand même, cette rencontre à nouveau avec Nicole n'est pas banale. Et dans mon cœur, le Seigneur a dit, Bernard, tu te rappelles quand tu étais jeune, tu m'as demandé que moi-même je puisse choisir ta femme. Et donc j'ai pas souhaité que tu sois avec elle ou avec une autre, parce que j'ai pris ta prière au sérieux et je l'ai exaucée en te donnant l'épouse dont tu avais besoin. C'est aussi simple, mais aussi fort, aussi profond que cela. Seigneur, donne-moi l'épouse que tu veux que j'aie, parce que tu sais que je ne suis pas très facile. Tu sais, mon ambition à te servir et à servir les hommes. Et il m'a donné la femme parfaite. Elle ne dit pas amen, mais bon. notre Père Tout-Puissant. Comment douter de la toute-puissance de Dieu, ce Dieu qui est Père créateur? Rien, mais alors vraiment rien, ne lui est impossible, quoi. Mais vraiment rien. C'est ce qu'il dit à Marie, qui deviendra enceinte sans avoir de relation sexuelle. Et il y a forcément des personnes qui me disent, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Alors, je dis, ouais, mais enfin, si Dieu a créé le ciel, l'univers, etc., franchement, pas de souci, quoi. Saint-Esprit vient et hop. Il est venu voir Sarah, femme d'Abraham, qui avait déjà été ménopausée. Puis plus tard, Élisabeth, la maman de Jean le Baptiste, qui elle non plus ne pouvait plus avoir d'enfant. C'est Jésus qui est devant la tombe de son ami Lazare, qui est mort et qui sent déjà. À qui il dit « sors ». C'est le Jésus qui, avec quelques pains et des poissons, nourrit les foules. Rien, mais alors vraiment rien n'est impossible à Dieu, y compris dans ta vie. Pas seulement pour les autres. Des fois, je l'entends. Ouais, le Seigneur, il préfère telle personne ou telle autre que moi parce qu'il ne fait rien pour moi. Si, si. Si, si, reconnais-le dans ton cœur, dans ta vie, dans ton être. Rien n'est impossible à Dieu pour toi aussi. Et donc, créateur du ciel et de la terre, créateur. Enfin, on pense que, à tort, hein, que Dieu, dans la Genèse, il nous est dit à un moment donné, Dieu créa et puis le septième jour, il s'est reposé. Mais il faut quand même être conscient que Dieu continue à créer aujourd'hui. Il est toujours créateur. Il se manifeste encore. Dans nos milieux, on dit souvent que dans la Genèse, hein, Dieu créa, c'est les premiers mots de la Bible. Le mot Dieu est au pluriel, Elohim. Et on dit souvent que Dieu le Père a pensé la création, que Jésus qui est le Verbe, la parole, l'a proclamé et que le Saint-Esprit l'a mis en œuvre. Je suis personnellement pas vraiment artiste, c'est le moins que je puisse dire. D'autres le sont dans des domaines très variés. Dieu a permis à des hommes et à des femmes de recevoir son ADN de créateur, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit dans d'autres domaines. On voit par exemple que Dieu lui-même dit à Moïse, j'ai donné à Betsalel tout ce dont il avait besoin pour construire le tabernacle. Il lui a donné des facultés artistiques pour que ça se produise. Et donc je disais, Dieu continue à créer, c'est ce que nous dit Philippiens, au chapitre 1, verset 6, « Dieu a commencé en vous un si bon travail, il va continuer jusqu'au bout. » Ça veut dire que Dieu agit dans nos cœurs comme le Créateur qui se manifeste dans nos vies, jour après jour. Il continue à créer. Dieu qui donne la vie aux morts, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, nous dit le texte de Romains. Et puis on nous parle du ciel et de la terre. Personnellement, je suis toujours émerveillé, subjugué à voir les images du cosmos. Quand il y a des reportages télévisés, moi ça me fascine. Je dis « Waouh, c'est tellement extraordinaire !» Il y a quelques semaines ici, je faisais écouter le bruit, j'allais presque dire la louange du cosmos. Les étoiles chantent, nous disent les psaumes. Et je ne sais pas comment, sauf d'avoir une révélation de la part de Dieu lui-même. Mais effectivement, aujourd'hui, avec la technologie, on peut entendre le chant des astres. J'aime beaucoup aussi les reportages animaliers, la nature, etc. Quelle imagination! Quelle imagination quand je vois les formes de bestioles quand même bizarres. Comment t'as pu faire ça, quoi? À quelle tronche ils ont, hein? Quelle forme? Quelle couleur? Seigneur, tu t'es bien marré, hein? Et je lui dis, chapeau l'artiste. Parce que c'est merveilleux. James Irwin, c'est le 8e homme qui a marché sur la Lune. Il est venu ici, dans notre église. Et on a fait ensuite une conférence à l'UCO. James, il aimait, c'est lui qui nous a dédicacé la photo. Bernard et Daniel, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'était un de ses versets favoris. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Et il aimait à déclarer, le plus grand événement que le monde ait connu n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais le plus grand événement, c'est plutôt que Dieu ait marché sur la terre au travers de Jésus. Je trouve ça tellement génial. Quel témoignage. Quel témoignage. Si, à titre personnel, je m'extasie devant la nature, je m'y sens à l'aise pour prier, et je me sens à l'aise dans la nature pour écouter le Seigneur, ce que je trouve génial, enthousiasmant, presque impensable, c'est que Jésus affirme, si quelqu'un m'aime, il suivra mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter en lui. Et ça, ça me... Comment dire, je trouve ça, excusez-moi de l'expression, mais c'est une dinguerie, quoi. Dans le sens où le Dieu de l'univers, qui a créé le cosmos, qui a créé les choses extraordinaires, il vient et puis il dit, mais moi je veux faire de ton cœur mon habitation. Je pourrais habiter le cosmos, mais je veux habiter dans ton cœur. Je veux habiter dans ta vie. On veut venir chez toi. Toc, toc, toc. Si quelqu'un ouvre la porte, je rentre chez lui. Je soupe avec lui. La traduction de la Taube dit « Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Jésus et le Père souhaitent faire de notre cœur, de notre corps, une habitation. Tous les jours. À chaque moment. Dans ce vase de terre, dira Pierre ou Paul, Dieu vient habiter dans ce corps de terre, d'argile que nous sommes. Donc un grand oui. Oui, Dieu Tout-Puissant, viens habiter dans mon cœur et dans ma vie. Enfin, on nous parle de l'univers visible et invisible. Si effectivement nous avons la joie d'observer de mieux en mieux, vu la technologie, la nature, que ce soit au loin ou que ce soit microscopique, nous ne pouvons perdre de vue qu'il y a un monde surnaturel, invisible, qui est bien présent. Nous avons plus ou moins régulièrement des personnes qui, ayant, pour des raisons très diverses, des problèmes de possession démoniaque, ben, il faut qu'on les délivre. Et lorsque on s'adresse des fois à des démons, tu sors au nom du Christ. Et des fois, les puissances démoniaques ne veulent pas, nous narguent. Et nous entrons en confrontation avec elles. Et en fait, presque à chaque fois, je me dis, purée, le monde surnaturel existe, quoi. Puissances démoniaques sont là. Mais elles sont vaincues au nom du Christ. Et Jésus nous a délégué l'autorité pour chasser les démons. Ainsi, Éphésiens nous dit au chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Comme il y a une hiérarchie dans le monde angélique, il y a aussi la même hiérarchie dans le monde démoniaque. C'est pour ça qu'on nous parle d'autorité, de puissance, de pouvoir, des esprits de mal. C'est à chaque fois des entités différentes, mais au nom du Christ qui a vaincu les puissances démoniaques à la croix, nous sommes appelés à délivrer ceux qui sont enchaînés. Oui, nous croyons en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et de l'univers, visible mais aussi invisible. Je voudrais conclure en vous laissant, et je vais prier. J'ai mis une phrase sur mon papier. Pouvons-nous dire, Dieu, notre Père, Papa du ciel, nous sommes fiers de toi. Je vous invite à être fiers de notre Père éternel. Soyez fiers de lui. Soyons fiers de lui parce qu'il le mérite. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire au travers de nos chants, au travers de nos louanges, mais aussi nous voulons le faire au travers de nos personnes. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Nous souhaitons que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, des personnes qui te louent, qui te glorifient pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Pas seulement pour que tu exauces nos prières, mais nous voulons bénir, te bénir et nous réjouir en toi. Comme dit, tu trépignes dans les cieux et nous voulons trépigner de joie avec toi en te en te remerciant de qui tu es. Et nous voulons te dire, Seigneur, c'est avec toi que nous voulons marcher jour après jour. Nous voulons attester au travers de nos paroles, de nos actes, de nos vies. Tu es notre Dieu. Nous croyons en toi. Nous sommes sûrs de ton existence. Et c'est en toi que nous nous confions, jour après jour. Amen.